بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui, le samedi, le 2 du mois Rabi al-Awwal de l'année 1448 de l'Hégire, correspondant au 15 août 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre hebdomadaire dans laquelle nous apprenons ensemble notre religion. Donc, on va commencer comme d'habitude par la lecture de le Coran al-Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec laquelle il a parlé réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et nous allons lire Sourate Al-Kawthar. Taïb, ceux qui aimeraient lire, et j'espère que vous allez tous lire, sans exception, ouvrent leur micro. Barakallahu fikum. Taïb, on va commencer par... Taïb, تفضل يا زيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سورة الكوثر.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
ما شاء الله. طيب، on va regarder quelques règles dans cette sourate. Si tu peux la relire verset par verset. Trois versets. Donc on va prendre verset par verset.
إنا
Ça, c'est le premier jugement. La première règle, inna, nous avons idram, de nun. Donc, on met deux temps. On dit, comme Zayd a dit, inna. Ensuite, on fait la prolongation. Inna a'tainaka al-kawthar. طيب هنا encore une autre règle, c'est تفخيم الراء. لا الراء à la fin de الكوثر, elle est forte. Vas-y.
فصلي لربك وانحر.
فصلي لربك وانحر. Donc au niveau de النون, vous remarquez qu'on n'a pas fait de إخفاء ni de إدغام. On a fait ce qu'on appelle idhar. On l'a prononcé normalement, car après nun, il y a une parmi les six lettres de l'idhar, qui est le ha. Pour ça, on a dit wanhar. Wanhar. Irra mufakhama. Wanhar. Taïb.
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
طيب. Donc, إِنَّ. Nous avons إِدْغَام. On met deux temps. On dit إِنَّ. شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. الْأَبْ. Au niveau le bas, nous avons une règle qui s'appelle الْقَلْقَلَةُ. القلقلة. حروف القلقلة. ما هي حروف القلقلة؟
C'est le B.
الباء ولكن l'ensemble de ces حروف. Elles sont au nombre de 5. Elles sont regroupées dans.
Abajadin.
Là, ça c'est. Abajad c'est l'alphabet. Ou là, ceux qui font. Sihr wal iyad billah. لكن حروف القلقلة سي جد قطب. جد قطب. دونك الجيم
جد قطب.
جد قطب. الجيم، الدال، القاف، طاء، الباء. خمسة. Voyez que le ba fait partie de Harouf al-Qalqala. C'est pour ça qu'en une de ces lettres, As-Sukun, où se trouve à la fin du mot, on fait ce qu'on appelle le Qalqala. Le Qalqala, c'est comme quelque chose qui rebondit. Regardez, on dit Al-Ab, Al-Ab, Al-Abtar, Irram ou Fakhama. Ahsan Tayazid. Alladhi ba'dahu.
Il y a mon frère qui
voudrait
dire.
Masmo.
داود
تفضل يا داود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
ما شاء الله، اللهم بارك. أحسنت، أحسنت، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طيب الذي بعدهما. سوريكي طاهر تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت طاهر؟
ماذا؟
أنت اسمك طاهر؟
نعم أنا اسمي طاهر.
طاها أو طاهر؟
طاهر.
طاهر؟ لا هو طاهر.
نعم نعم.
وهل أنت طاهر؟
نعم أنا طاهر.
Yani, ton prénom c'est Tahir. Oh, ça c'est d'accord. Maintenant, je te pose une deuxième question. Est-ce que tu es Tahir?
Oui.
Oui, non. Ça veut dire que tu as tes ablutions.
Oui.
Parfait. Donc, Tahir, ça veut dire que tu es purifié, alhamdoulilah, mashallah. Et tout croyant. Tout croyant est tahir dans tous les cas. Car l'impureté, la grande impureté et la pure des impuretés, c'est quoi?
C'est le
shirk. C'est shirk, le kufr, la mécréance. C'est pour ça que le croyant, il est toujours tahir. Lakin, des fois, il n'a pas de tahara avec laquelle il peut faire les adorations, c'est-à-dire les ablutions et ainsi de suite. Barakallahu fik, tfaddal ya akhi tahir. طاهر هي طاهر يعني pour au niveau de la langue arabe طاهر c'est comme فاعل فهي صفة مشبهة بالفاعل. بارك الله فيك، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
إن شانئك
هو الأبتر.
شانئك يعني تولي دون كل قراءة ورش
حفص.
حفص. دونك اون دي إن شانئك ني أ أ أكا إن شاني أكا سين همزة
إن شاني أكا.
أحسنت. أعد لو ديرني فيرسي.
إن شاني أكا هو الأبتر.
أحسنت، ما شاء الله، بارك الله فيك. طيب الذي بعده. Comme je vous ai dit, celui qui veut lire, il ouvre son micro.
Merci. Wa alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh.
Hayyakallah, masmouk.
Khadija.
Hayyakillahu ya Khadijatu. Tafaddali.
Aouzou yakin.
On t'écoute.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا خديجة، أحسنتي. Belle récitation. Masha'Allah. Barakallahu fik. Taïf, on va passer au suivant.
Voilà, c'est tout.
Aïwa? Taïf. Tfaddal, masmouk.
Abdullah.
Tfaddal, كم بلغت من العمر؟
أربعة.
أربع سنوات، ما شاء الله. إذا تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل
إنا أعطيناك الكوثر
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك. طيب الذي بعدها عبد الله. هدى. أبو هدى.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك هدى؟
لا سويبة.
ثويبة ما شاء الله. تين ماروكان؟
نعم فرانسيز.
إن فرانسيز ما شاء الله، يعني تا با دو ريلاسيون افيك لو ماروك ني الجيري ني ها تا با ان دو تي بارون اه تابيت تيتوان ما شاء الله. اي سي بور سا تو بارل كوم ان ماروكان، يعني نورمالمون سي ثويبه افيك ثا، مي توا تو دي كوم لي ماروكاي ديز ثويبه.
Oui.
D'accord. Ton vrai prénom, c'est Thouaïba, avec Tha. Thouaïba. Tafaddali ya Thouaïba. Kam balaghti min al-umr? Kam balaghti min al-umr? T'as quel âge?
7 ans.
7 ans, mashallah.
7 ans.
7 ans, mashallah. T'apprends la langue arabe?
Oui.
Il faut pratiquer. Yani, quand tu apprends l'arabe, faut le parler. Comme ça, ça va, tu vas avancer très facilement. Bi'idnillah, qu'Allah te le facilite. Alors, on t'écoute.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli bi rabbika wanhar.
ما شاء الله تبخن avec ورش. أحسنتي، قراءة جميلة، belle récitation. ما شاء الله، اللهم بارك.
شكرا.
عفوا. طيب للذي بعدها، للذي بعد ثويبة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك يا أخي؟
إبراهيم.
إبراهيم ولا إبراهيم؟ ها؟
إبراهيم.
إبراهيم ولا إبراهيم؟
زاهر.
زاهر. زهير.
نعم.
ما شاء الله. أيوة زاهر. أنت مكتوب عندي زاهر.
نعم.
إذا زاهر أو زهير؟
Zahir.
T'es originaire d'où? Du Maroc? Tu vis au Maroc?
Oui.
Oui, c'est pour ça que tu fais les erreurs des Marocains.
Les Marocains, au lieu de dire Adil, ils disent Adil. Zahir, ils disent Zahir. Pour faciliter. Alors, tafaddal ya Zahir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أخذناك الكوثر فصليه ربك والأحد إنه كان يكفو الأبتر
ما شاء الله très bien أحسنت طيب on va passer au suivant
مريم
مريم كيف حالك يا مريم
بخير
تفضلي نحن متشوقون لسماع قراءتك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
ما شاء الله بارك الله فيك يا مريم قراءة طيبة هل سأبل كما
خديجة
خديجة تفضل يا خديجة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
أحسنت طيب لعلنا سنكتفي بهذا on va peut-être se limiter à ça et on va regarder l'explication de cette sourate composée seulement de trois versets sourate Al-Kawthar Al-Kawthar, qui signifie l'abondance ou un lac qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en rappelant ses bienfaits sur son noble prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam. Il lui rappelle ses nombreux bienfaits sur lui. En lui disant « Inna a'tainaka al-kawthar » Nous t'avons certes accordé l'abondance. L'abondance de bien et de bienfaits et de grâce et de faveur. Et parmi ces bienfaits et ces faveurs, justement, ce lac ou là ce fleuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son noble prophète et le bassin qu'il lui a accordé également Al-Kawthar ce bassin dont la longueur et la largeur sont égaux à une marche d'un mois donc il est immense son eau elle est plus blanche que le lait est plus délicieuse que le miel et dont ses récipients sont plus nombreux que les étoiles du ciel. Celui qui en boit une seule fois de ce bassin ne sera plus jamais assoiffé. Qu'Allah nous accorde la possibilité de boire du bassin de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et vous savez qu'il y a des personnes de cette communauté, des muslimines, c'est pas des mécréants, c'est pas des associateurs, c'est pas des gens qui font shirk, ou des gens qui ne croient pas en Allah, ni en son prophète alayhi salatu wassalam. Non, c'est des gens qui croient en Allah et en son prophète alayhi salatu wassalam, et ils vont rencontrer Allah sans avoir fait de shirk majeur. Pourtant, qu'est-ce qui va leur arriver quand ils vont s'approcher du bassin du prophète pour boire tellement ils seront assoiffés qu'est-ce qui va leur arriver? Qui connaît ce hadith?
Ils vont se voir rejeter.
Ahsant. Ils vont être repoussés par les anges. Les anges, ils vont les repousser. Ils vont les éloigner. Pourquoi ils vont les repousser? Et ils vont laisser les autres boire et eux, ils vont les repousser.
Parce qu'ils ont fait des innovations.
Ya salam. C'est qui a répondu?
Zayd.
Zayd, mashallah, Allahumma barik. Ahsan, c'est akhi. Parce qu'ils vont, ils auront fait des innovations dans dunya. Des adorations qui ne sont pas légiférées. C'est pour ça, mes frères, si tu veux te rapprocher à Allah, rapproche-toi de lui d'abord sincèrement. C'est-à-dire, tu ne veux que sa récompense et sa satisfaction. Et te rapprocher d'Allah. Et le deuxième point, rapproche-toi d'Allah avec ce qu'il a légiféré. Ce qu'il t'a ordonné de faire. Ne va pas inventer des choses. Car si tu inventes des choses, tu risques d'être repoussé par les anges. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé... Naam, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes?
Al-ikhlas wal-mutaba'a.
Al-ikhlas wal-mutaba'a, ya salam. Quelle belle participation, Allahumma barik. T'as résumé tout ce que j'ai dit. C'est parfait, excellent. Taïb, Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwa, après avoir rappelé à son noble prophète ses nombreux bienfaits sur lui, et parmi elles, le bassin qu'il lui a accordé, Haud, il lui a ordonné, il lui a donné un ordre. C'est quoi l'ordre qu'il lui a donné?
Il lui a dit de prier et de sacrifier le chameau.
Il lui a dit de faire salat, fassalli li rabbika wanhar. Ahsant. Et donc, on tire de là une grande règle dans l'islam. Si tu veux être reconnaissant, alors obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu reconnais, c'est Allah qui t'a tout donné. C'est qui t'a donné le bienfait de l'œil et de la vue et de l'ouïe
Allah
et de l'odorat et du goût avec ta langue. Tu crois que c'est normal? Tu goûtes les choses? Tu fais la distinction entre une glace, une bonne glace, une mauvaise? Tu crois que c'est normal comme ça? Non, c'est un bienfait d'Allah, c'est Allah qui te l'a permis. Est-ce que vous savez, il y a des gens, ils font pas la distinction entre les aliments? Ils mangent du piment fort, une glace sucrée, pour lui c'est pareil, il fait pas la distinction. Parce qu'il n'a pas cette ni'ma du goût. Il y a des gens qui ne sentent pas les odeurs. Si jamais il y a une fuite de gaz dans la maison, il ne va pas la sentir. Il y a des gens qui n'entendent pas. Il y a des gens qui ne voient pas. Il y a des gens à qui Allah n'a pas donné la raison. Qu'est-ce qui fait que tu suis avec nous et que tu réfléchis et que tu comprends et que tu retiens et tu mémorises et que tu analyses ce qu'on dit? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à ça? C'est justement cette raison dont Allah t'a doté. C'est une ni'ma. Et avant de parler de toutes ces ni'ma qu'Allah t'a créé. C'est Allah qui t'a créé. Tu crois que tu existes comme ça? Et sa plus grande ni'ma sur toi, c'est quoi? Et sur moi?
Tawhid.
C'est Tawhid, ya salam. Ça, c'est la plus grande ni'ma sur nous. C'est d'avoir fait de nous des muslimines mouahidin. Ça, c'est la plus grande ni'ma d'Allah sur nous. D'avoir fait de nous des muslimines, des mouahidin. Comme a dit Ibrahim alayhi salam dans le dua. وَجَعَلْنَا لَكَ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَجَعَلْنَا مسلمين لك. Ibrahim et Ismaïl ont invoqué Allah. Ils lui ont dit, fais de nous des muslimines. des soumis à toi. Donc, c'est qui fait de toi un muslim, un soumis, un mouahid? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, ça c'est la plus grande ni'ma d'Allah sur nous. Et on doit remercier Allah sur ses bienfaits, comme Allah a enseigné à son noble prophète dans cette sourate. Il lui a dit, t'as reconnu que c'est moi qui t'a tout donné, tous ces bienfaits, et cette abondance de bienfaits et de grâces, alors sois reconnaissant. Comment je peux être reconnaissant? Fasalli li rabbika wanhar. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Comme tu ne fais salat que pour Allah, ne la fais pas pour ton père parce qu'il t'observe. Ne la fais pas pour ta mère parce qu'elle te regarde et tu sais qu'elle va être contente de te voir faire la salat. Ne la fais pas pour ton père parce que tu sais qu'il va être heureux de voir que son fils bien-aimé fait la salat. Lakin, fais-la pour Allah. Et sacrifie également pour Allah. Quand tu égorges une bête, fais-le au nom d'Allah. C'est une adoration. Et l'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux mouchriquin qui sacrifient au nom de leur fausse divinité. Sidi Antel ou la Sidi Antel, le Mouahid sacrifie uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, donc ça c'est quelques catégories d'adoration. Bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans cette surah parmi les meilleures adorations qui existent. Après Tawhid, c'est l'adoration de Salat, notamment les 5 salawat obligatoires. Et après Salat, le sacrifice. Ces deux adorations. Parmi les plus grandes adorations, les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans, yani, comme vous savez, le Salat, c'est une adoration qui se fait avec, yani, une adoration physique. Tu la fais avec ton corps et ton cœur. C'est comme ça que tu arrives à cette salat très aimée par Allah. Quand tu la fais avec le corps et le cœur, c'est pas t'es dans le rang, tu fais salat, t'es ailleurs, t'es en train de penser à tes jouets, quand est-ce que tu vas terminer pour aller jouer. Le jeu, yani, le temps de jouer, tu vas l'avoir. Lakin, pendant la salat, reste concentré sur ta salat. Et le sacrifice, c'est une adoration avec l'argent. Tu donnes de ton argent pour acheter une bête que tu vas sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en dernier, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, alayhi sallam, il a dit, inna shani'aka wal abtar. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Celui qui te déteste, qui te hait et qui te dénigre et qui te critique à tort parmi tes ennemis, les ennemis du prophète alayhi salatu wasalam, comme son oncle Abu Lahab qui le blâmait et qui le dénigrait et qui le détestait au point qu'il a ordonné à ses deux fils de divorcer, qui étaient mariés avec les deux filles du prophète alayhi salatu wasalam, il leur a ordonné de les divorcer. Lakin, Allah leur a remplacé ses maris, incrédules, kuffar, par deux maris croyants. Donc, le Nabi alayhi salam et ses filles n'ont rien perdu. Au contraire, elles étaient gagnantes. Elles se sont débarrassées d'un mari mécréant et Allah leur a accordé un mari croyant. Donc, Allah il dit à son prophète alayhi salam, inna shani'aka. Celui qui te hait, qui te déteste, qui te dénigre, qui te critique, c'est lui qui sera coupé de tout bien. Comme Abu Lahab. Regardez, après sa mort, personne ne parle de lui en bien. Déjà, qui le connaît? Et ceux qui le connaissent, ils ne le connaissent que par le mal. Est-ce que vous avez déjà vu le Kuffar parler de la biographie de Abu Lahab, de ses exploits, de ses réalisations? Personne ne le connaît. Il a été coupé de tout bien, comme Allah lui dit dans ce verset. Il a été coupé de tout bien. Et pire encore, ceux qui le connaissent et qui parlent de lui, c'est parce qu'ils savent que c'est quelqu'un de très mauvais. C'était un ennemi du prophète, alayhi salam. C'est quelqu'un qui s'est opposé à la vérité et qui ne l'a pas accepté. Inna shani'aka huwa al-abtar. Et en plus, c'est lui qui sera la nahuma, et décrivait le Nabi alayhi salam comme ne pas avoir, qu'il n'avait pas de fils. Qu'il n'avait pas de fils. Ils ont dit, il sera sans postérité. C'est-à-dire, après sa mort, il n'y aura plus personne de sa famille. Allah lui a dit, c'est toi qui seras sans postérité. Et c'était vrai, Abu Lahab n'a pas de descendance. Sa descendance est finie. Et la descendance du prophète continue sur terre, que ce soit sa descendance directe, c'est-à-dire ceux de sa famille, ou sa descendance indirecte, c'est tous ses suiveurs sur cette religion de vérité. Ils ont ce lien de paternité avec le prophète alayhi salam, car le prophète alayhi salam est un père pour tous les croyants, est un père religieusement pour tous les croyants. C'est pas le père de sang. Donc il y a la descendance avec les liens de sang et la descendance avec les liens de la religion. Et la descendance avec les liens de la religion, elle est plus forte et elle a plus de mérite et plus de valeur. Donc Nabi alayhi salam, il n'est pas resté sans postérité. Regardez, yani, toute sa famille qui est encore vivante, les descendants du prophète alayhi salam par les liens de sang qui existent aujourd'hui, qu'on appelle comment en arabe? Ahlou. Ahlul Bayt. Ahlul Bayt. La famille du prophète alayhi salam. Et tous ceux qui sont liés au prophète alayhi salam avec le lien de la religion qui est plus fort. Donc si quelqu'un est un descendant du prophète alayhi salam, écoutez bien. Question piège. Si quelqu'un est un descendant du prophète alayhi salam qui a des liens de sang, est-ce que ceci sera suffisant pour qu'il aille au paradis?
Non.
Non. Qu'est-ce qu'il faut rajouter à ça?
Il faut qu'il ait aussi dans la descendance religieuse.
Aïwa, ahsant. Yani, ce qui compte en premier, c'est la religion. C'est d'être sur la même religion que lui. C'est pour ça que le Nabi Sallam s'est adressé à la personne qu'il aime le plus de sa famille. C'est qui? C'est sa fille, de laquelle on a déjà parlé. Elle s'appelle comment? La toute petite, la toute dernière.
Fatima.
Fatima. Il s'est adressé à elle. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, « Ya Fatima bint Muhammad, salini min mali ma shi'ti, la ughni anki min Allahi shay'a. » Il lui a dit, « Ya Fatima, oh Fatima, fille de Muhammad, na'am, je t'aime énormément. T'es ma fille que j'aime énormément. Et je suis ton père. Je peux te donner tout ce que tu veux pendant mon vivant. Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Du moment que je puisse le donner. Lakin, sache que devant Allah, je ne te saurai d'aucun secours si tu ne viens pas avec la religion de vérité. » Nabi al-Islam ne peut pas intercéder en faveur d'elle et demander à Allah de la faire rentrer au paradis si elle n'est pas sur la vraie religion. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Si c'est valable pour Fatima, alors c'est valable pour tout le monde. Donc, et ce que Allah dit au sujet des ennemis du prophète Aïssa Salam pendant son vivant, comme son oncle Abu Lahab et Abu Jahl, son grand ennemi Abu Jahl, et ainsi de suite parmi ses ennemis. Ça, c'est ses ennemis pendant son vivant. C'est valable également pour ses ennemis après sa mort, qui sont les ennemis de sa religion et de sa sunna. Tous, ils seront sans postérité, et ils seront coupés de tout bien, et les gens vont tomber dans l'oubli, et les gens ne parleront jamais en bien d'eux, sauf en mal. Ça, c'est valable pour tous les ennemis du prophète, et ça, c'est dans Dunya. Alors, que dire de ce qui les attend dans l'Akhirah, comme châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, mes frères, ce qu'on peut dire par rapport à cette sourate. Vous avez remarqué que c'est une sourate très concise, trois versets, et elle englobe toutes ses leçons. Le rappel des bienfaits, le devoir de la reconnaissance face aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le sort de tous les ennemis de la religion. Taïb, par rapport à nos questions au sujet de Tawhid, la semaine dernière, on a parlé de l'unicité, des trois catégories de l'unicité. Qui peut me rappeler les trois catégories de l'unicité?
C'est
Tawhid al-Uluhiyya,
Tawhid al-Asma' wa-Sifat.
Ahsan, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de la divinité et de l'adoration, qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-Rububiyya, qui consiste à croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans tous ses actes, tout ce qu'il fait, il est unique. Personne ne ressemble à Allah dans ce qu'il fait. Il est l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, l'unique administrateur et gérant de toute sa création. Et Tawhid al-Asma wa Sifat, qui consiste à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique également dans tous ses noms et dans tous ses attributs. Et c'est un domaine dans lequel on n'invente pas des noms ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous prenons ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna authentique. D'accord ? Taïb, Tawhid l'Ibada, l'unicité de l'adoration, qu'on appelle également l'unicité de la divinité, consiste à réserver toutes nos adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la question, citez-moi des exemples d'adoration.
Voilà.
As-salat.
La prière.
Non, on dit pas la prière, on dit salat. La prière, c'est l'invocation, c'est salat.
Al-wudu.
Al-wudu, ya salam.
Le jeûne.
Hein? Le jeûne. Siyam. Le jeûne, dites siyam. Au moins, je tolère que vous utilisez des mots en français. Lakin, les six piliers de l'islam, les six piliers de la foi, il faut les dire en arabe, c'est un minimum. D'accord ? On se met d'accord sur ça. Taïb. Siyam, az-zakat. Masha'Allah.
Qiyam al-Hajj.
Al-Hajj, ahsantum.
Qiyam al-Layl.
Qiyam al-Layl. Je veux des adorations du cœur.
Al-Khashya.
Ya Allah, ma salam, ma ahsana hada al-jawab. Quelle belle réponse, mashallah. Allahumma barik. Al-Khashya, la crainte d'Allah, d'avoir peur d'Allah. Aïwa, des adorations du cœur. Hein?
La sincérité.
La sincérité.
La sincérité.
Ahsant.
Al-Dua.
Al-Dua, c'est une adoration avec l'apparence. Lakin, c'est la plus méritoire de toutes les adorations. Ad-du'a, quand t'invoques et tu lèves tes mains, lève-les pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsant, al-khawf. Al-khawf, la crainte. Taïb, citez-moi l'opposé de la crainte comme adoration du cœur. qu'on aime tous.
La sincérité.
La.
L'amour.
L'amour, le mahabba, ahsant. L'amour, c'est la une des plus grandes adorations du cœur. T'aimes Allah. Qu'est-ce qui fait augmenter ton amour pour Allah? De te rappeler, comme on a vu dans cette sourate, de te rappeler ses bienfaits sur toi. Taïb, encore une adoration du cœur.
Al-Raja.
Al-Raja. Ya salam. Comme ça, vous aurez tout cité. Al-Mahabba, Al-Khawf, Al-Raja. Al-Raja, l'espoir. Espérer ce qu'il y a auprès d'Allah. Donc nous, les croyants, nous adorons Allah parce que nous l'aimons. Nous adorons Allah parce qu'on craint son châtiment. Et nous adorons Allah parce qu'on espère sa récompense. C'est les trois les plus importants. Les piliers de l'adoration du cœur. Arkan al-ibadat al-qalbiya. Ahsantum. Taïb. Question suivante. Attention. Quel est le péché le plus grave? Quel est le plus grand de tous les crimes?
Al-sihr.
Al-shirk. Taïb.
Al-shirk.
Taïb. Donc, je vous pose une question. Quel est le plus grave de ces deux crimes? Quelqu'un... Là, j'ai pas encore cité les deux crimes, car ils sont tous les deux très graves. Laquelle je veux savoir le plus grave d'entre eux. Quel est le plus grave de ces deux crimes? Et concentrez-vous bien. Écoutez bien ce que je dis. Quel est le plus grave de ces deux crimes? Dégorger un coq pour une tombe. Le deuxième, de tuer sa mère dans la rue, devant les gens.
De tuer sa mère dans la rue.
Hein?
Le coq.
Le premier.
Égorger le coq.
Oh là là, c'est plus grave que de tuer un être humain. Un être humain qui nous a donné, qui était la cause de notre existence, notre mère. C'est plus grave. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux?
Oui.
Oui. Yani, tuer un être humain, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Au point, écoutez bien. Tuer un être humain, c'est quelque chose de très grave. Au point. Ou c'est le premier crime sur lequel on sera jugé devant Allah. Le meurtre. Lakin. Et que dire de tuer sa mère? C'est encore beaucoup plus grave. Tuer un être humain, un innocent, c'est un péché très très grave auprès d'Allah. C'est Allah qui donne la vie. C'est pas à toi de tuer qui que ce soit. Tuer un innocent, c'est un péché très grave auprès d'Allah. Que dire quand c'est un croyant? Et que dire quand c'est ta propre mère? C'est encore beaucoup plus grave. Taïb. Lakin, malgré cela, al-shirk reste encore beaucoup plus grave. Ahsantum. Excellente réponse. Donc on va s'arrêter sur ça. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, une magnifique histoire, inshallah ta'ala, d'un compagnon qui s'appelle Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Qui connaît le nom de ce compagnon?
Moi, je le connais.
Tu le connais?
Le connais.
T'as déjà entendu son histoire? Peut-être qu'on l'a déjà fait. Ou voilà, j'ai des fois des trous de mémoire.
Et j'ai entendu dans un livre.
Eh, mashallah. T'as entendu dans un livre qui parle? Ou là, tu l'as lu?
Hein? Je l'ai lu.
Tu l'as lu, d'accord. Ahsant, ya Sanad Ali. Taïb, c'est une magnifique histoire d'un homme qui est passé par plusieurs religions, qui est passé par plusieurs religions et qui était auprès de plusieurs maîtres dans ces religions-là. Et sa seule quête, c'était la vérité. Il a toujours cherché la vérité, depuis son jeune âge. Donc, écoutez l'histoire de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, qui a été rapportée par Abdullah ibn Abbas. Il dit, Salman al-Farisi m'a dit, de sa bouche, à mon oreille, il m'a dit, j'étais un homme persan, yani de la Perse. La Perse aujourd'hui, c'est l'Iran et ses alentours. Donc, il est originaire de cette région. Et de cette région, il est originaire d'une ville qui s'appelle Asbahan. Elle porte toujours le même nom aujourd'hui, en Iran. Asbahan, c'est une très grande ville en Iran actuellement. Et de cette très grande ville de Asbahan, il est originaire d'un petit village qui s'appelle Jai. Et son père était le chef du village, l'homme le plus riche et le chef de ce village. Et son père l'aimait d'une manière très très forte. Le père de Salman l'aimait énormément, au point qu'il ne le laissait pas sortir dehors pour le protéger, le préserver. Il lui demandait de rester tout le temps à la maison. Donc il restait à la maison, Salman radiallahu anhu. Il était protégé, préservé. Ouais, il dit qu'il restait souvent à la maison, comme reste une petite fille en général. Ce sont les petites filles qui restent souvent à la maison. Les garçons, en général, ils sortent de temps en temps, dans des endroits où il n'y a pas de danger. Là, en général, les petites filles, elles vont s'amuser à la maison, elles vont rester le plus souvent, beaucoup plus à la maison que les garçons. Donc lui, il dit que son père le gardait à la maison comme on garde une petite fille. Donc, dans quelle intention son père faisait ça? Le protéger et le préserver, car il l'aimait énormément. Et Salman al-Farisi, au début, il était sur la religion de l'Majoussiya, la religion mazdéenne. Le zoroastrisme, ça s'appelle comme ça aussi. Yani, c'est une religion dans laquelle ils adorent le feu, ou là ils adorent le soleil, ou là la lumière. Là, le plus souvent, c'est le feu. C'est une religion, ils croient que le feu, c'est lui la divinité. C'est le feu qui a créé le bien. Et le noir et l'obscurité, c'est le mal. C'est lui qui a créé le mal. Donc il croit en deux divinités. Lakin Huma, ils adorent la divinité du bien, selon eux, qui a créé le bien. C'est le feu. Et Salman, il disait qu'il a fait tellement d'efforts dans cette religion, très très jeune, qu'il est arrivé à un statut très élevé dans cette religion, dans son village. C'était lui le responsable de maintenir le feu tout le temps allumé, et de ne pas le laisser s'éteindre, car cette divinité, il faut qu'elle reste tout le temps allumée. Et regardez, Annie, le niveau de l'égarement. Quand Allah t'abandonne, yani une divinité qui a besoin de toi pour rester en vie. Si tu t'endors pendant 3 heures, elle va s'éteindre. C'est quoi cette divinité? Alors que la vraie divinité, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui veille sur toute chose. Il n'est pris ni par sommeil, ni par somnolence, ni par début du sommeil, ni par le sommeil lui-même. Subhanahu wa ta'ala, car il est le vivant éternel. Donc, Salman est arrivé à ce degré-là. C'est lui qui veillait tout le temps sur le feu, pour le maintenir tout le temps allumé. Et ça, c'était un degré élevé dans cette religion. Et son père, il disait que son père avait une grande ferme qui leur rapportait énormément de richesses et de fruits, de légumes. Et c'est son père qui s'occupait de cette ferme. celui qui allait là-bas dans la ferme et qui surveillait le travail et qui prenait les récoltes. Donc c'est lui, c'est son père qui s'occupait de cette ferme. Un jour, son père était très occupé par une construction, par une maison qu'il construisait. Et il a dit à son fils, Salman, pour la première fois qu'il va lui faire cette demande, il lui a dit, voilà, t'as vu, aujourd'hui je suis très très occupé par ces travaux, donc je ne peux pas me rendre à la ferme. Vas-y dans la ferme et fais ce que je fais habituellement. Occupe-toi, surveille, et ainsi de suite. Il lui a dit, d'accord. Et Salman, effectivement, il est sorti de chez lui en direction de la ferme. Sur le chemin, il est passé par une église. L'église, comme vous savez, c'est l'endroit d'adoration des...
Des chrétiens.
Catholiques.
Oula, des catholiques. Non, Hassan, des catholiques. Donc, il est passé par une église. Et ça l'a interpellé, leurs invocations et leur adoration dans leur église. Et il s'est rapproché. Il les a observés de très près. Il a bien aimé ce qu'ils font. Il a trouvé que leur adoration était meilleure que, leur, que son adoration à lui, ainsi que son peuple, qui était l'adoration du feu. Et que ces gens-là avaient une meilleure religion que la leur, et une meilleure adoration, et une meilleure invocation. Donc il a bien aimé ce qu'ils font. Et avant cela, il n'avait jamais pris connaissance d'aucune autre religion. Il ne connaissait que l'adoration du feu. Et il s'est dit, par Allah, ce qu'ils font est meilleur que ce que nous faisons. Et leur religion est meilleure que la nôtre. Il est resté avec eux jusqu'à très tard dans la soirée. Très très tard. Il est rentré chez lui qu'après le coucher du soleil. Et en rentrant chez lui, et bien évidemment, il n'est pas du tout passé par la ferme. Il n'a pas fait la mission que son père lui a confiée. Il est rentré chez lui car c'était très tard. Il fallait qu'il rentre. Et donc en rentrant chez lui, il a parlé avec son père. Il lui a dit, voilà ce qui s'est passé. Sur mon chemin, je me suis arrêté dans une église et j'ai bien aimé leur religion. Et je trouve que leur religion est meilleure que la nôtre. Et leur salat est meilleur que la nôtre. Son père lui a dit, non, c'est faux. Notre religion est la meilleure. Et notre salat est la meilleure. Salman, regardez, pourquoi on dit qu'il faut éduquer un enfant sur une forte personnalité. Salman, radiyallahu anhu, n'a pas dit, d'accord, comme tu le dis, t'es mon père, c'est bon. Non, il a discuté avec adab, avec politesse. Il a dit, non, c'est pas vrai ce que tu dis. Leur religion est meilleure que la nôtre. Et son père, à ce moment-là, quand il a vu son insistance sur cet avis, et qu'effectivement il a été touché par ce qu'il a vu, il a eu peur pour son fils, selon lui, qu'il apostasie, et qu'il abandonne la religion de ses ancêtres, et qu'il aille vers la religion catholique ou la chrétienne. Et j'ai oublié de mentionner un détail. Avant de quitter l'église, il a demandé à ses chrétiens, il leur a demandé d'où vient votre religion ? C'est quoi l'origine de votre religion ? Ils lui ont dit, notre religion, son origine, c'est la grande série, Hacham. C'est de là qu'elle vient. Il a dit d'accord. Il leur a dit, si jamais il y a donc, ça c'est, il leur a dit d'où elle vient, il a su l'origine de cette religion. Il a su l'origine de cette religion, qu'elle est originaire de la Grande Syrie. Après son échange avec son père a eu peur pour lui, il a décidé de l'enfermer dans la maison, Lakin, en plus de le ligoter par les pieds. Donc il l'a attaché au niveau des pieds, il l'a enfermé dans la maison pour qu'il ne puisse pas se rendre à cette église une nouvelle fois. Et pour qu'il reste à la maison, jusqu'à oublier ce qui s'est passé. Et Salman, radiallahu anhu, a trouvé le moyen d'échanger avec ces gens dans l'église, et il leur a demandé de l'informer quand il y aura une caravane commerciale qui arrive de la Grande Syrie, avant qu'elle reparte vers cette région, de l'informer afin de les rejoindre et de voyager avec eux. Ils lui ont dit d'accord. Effectivement, quelques temps après, ils l'ont informé de l'arrivée d'une caravane commerciale de la Grande Syrie et qu'elle va repartir dans telle et telle année au bout de quelques jours. Et il a saisi l'opportunité et il s'est détaché et il a pris la fuite. Il a rejoint cette caravane commerciale. Il a fait son premier voyage vers la Grande Syrie, vers la quête de cette religion. Il a cru en cette religion, il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, et il a commencé à l'adorer avec les rituels de la religion chrétienne. Une fois qu'il est arrivé en Syrie, il leur a demandé là-bas, c'est qui le meilleur dans cette religion? Ils lui ont dit, le meilleur c'est l'évêque un tel qui est dans l'église, telle église. C'est le meilleur des adorateurs chez nous. Et il est allé le voir, il lui a raconté son histoire, il lui a dit, voilà, je viens de très loin, et j'ai aimé cette religion, et j'aimerais rester auprès de toi, t'aider, être à ton service, et adorer Allah avec cette religion. Il lui a dit, il n'y a pas de souci. Et il a accepté. Et il est resté dans cette église. Yani, l'évêque, c'est un degré dans la religion chrétienne. En dessous, nous avons le curé. Un curé, c'est yani, les premiers niveaux. Après, quand il monte dans les grades, ça devient un évêque. Et après, il monte encore pour que ça donne un archevêque. Un archevêque. Curé, évêque, archevêque. Taïb. Donc ça, c'était un évêque. Il est resté auprès de lui quelque temps et il a vu que c'était un homme très mauvais. C'est ce soi-disant meilleur adorateur, comme il l'a vu de près et comme il l'a vu quand il était seul, il a vu de lui beaucoup de mal. Entre autres, parmi ce que Salman a décrit, il a vu de lui qu'il incitait les croyants à donner des aumônes pour les distribuer entre les pauvres et les nécessiteux. Et c'est ce qu'il faisait. Et quand il ramassait cet argent, il ne le distribuait pas. Il le gardait pour lui. Il remplissait des jarres avec l'or et l'argent qu'il prenait des gens. Et par la suite, quelque temps après, cet homme est décédé. Et les gens, quand ils ont appris sa mort, ils sont venus pour l'enterrer et pour l'honorer après sa mort. Et Salman, à ce moment-là, il leur a dit, cet homme était quelqu'un de très mauvais. Ils lui ont dit, pourquoi tu dis ça? Tu te bases sur quoi pour dire ça? C'est au contraire, c'est le meilleur d'entre nous. Il leur a dit non. C'est ce qu'il vous montrait. Mais en cachette, il faisait beaucoup de péchés, entre autres, tout ce que vous lui donnez comme or et argent, il ne le distribuait pas entre les pauvres, il le gardait pour lui. Ils lui ont dit, est-ce que tu as des preuves? Il leur a dit, voilà les preuves, venez. Il leur a montré cette jarre qui était remplie d'or et d'argent. Et là, ils ont su que c'était vrai. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont crucifié et ils l'ont lapidé par les pierres. Mort. Ils l'ont crucifié mort, ils l'ont lapidé mort. Et après, ils ont placé un autre homme à sa place. Et cet homme, contrairement au premier, était quelqu'un de bien. Et au point où Salman, regardez comment il a décrit. Il a dit, je n'ai jamais vu un homme qui ne fait pas les 5 salawats quotidiennes meilleur que cet homme. C'est le meilleur homme qu'il a rencontré qui n'est pas musulman. Lakin chez les musulmans, il a rencontré beaucoup d'hommes, énormément d'hommes, qui sont meilleurs que lui. Cet homme, contrairement au premier, était un asset. Il n'avait rien à faire de dunya. Il gardait rien pour lui. Il donnait tout au fils abilillah. Il aidait les gens. Il faisait beaucoup d'adoration la nuit. Et faisait beaucoup de bien. Et Salman est resté en sa compagnie jusqu'à ce que la mort est arrivée à cet homme. Salman est venu le voir, il lui a dit, voilà, je suis resté à ton service et j'ai beaucoup profité avec toi. Alors, indique-moi quelqu'un qui est sur terre, quelqu'un qui est sur la même religion que toi. Et ça, c'était des purs monothéistes. Ce n'est pas comme les chrétiens païens, les chrétiens associateurs. À l'époque, l'associationnisme était très répandu chez les chrétiens. Mais il y avait quelques individus parmi eux qui étaient encore sur le pur monothéisme. Parmi eux, il y avait cet homme. Il lui a dit, je veux que tu m'indiques quelqu'un qui est sur la même religion que toi. C'est-à-dire sur le pur monothéisme, tawhid. Il lui a dit, je ne connais personne sur terre sur la même croyance que moi, à part un homme qui réside dans le Mawsil, en Irak. C'est une ville en Irak qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Mawsil. Il lui a dit, rejoins-le et reste auprès de lui. Et c'est ce que Salman radiallahu anhu a fait. Donc il va quitter la Syrie, il va voyager en Irak. Pourquoi? Pour être auprès d'un homme de science et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va rester avec lui un certain temps. Il va voir de lui que du bien. Et effectivement, il était sur la même croyance que son prédécesseur. Jusqu'à ce que la mort est arrivée à cet homme également, Salman lui a formulé la même demande. Il lui a dit, indique-moi quelqu'un qui est sur la même religion que toi. Il lui a dit, je ne connais personne à part un seul homme qui vit à Nasibin. Nasibin, elle se trouve aujourd'hui en Turquie. C'est une grande ville qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Et je ne sais pas si ça s'appelle comme ça encore aujourd'hui ou pas. Mais je ne pense pas qu'elle s'appelle comme ça aujourd'hui. Dans laquelle vivent des Arabes, des Kurdes et des Turcs. À l'époque, il y avait ces trois races qui vivaient dans cette ville. Effectivement, il a rejoint cet homme et il a vu de lui du bien. Et qu'il était sur le pur monothéisme. Pareil, quand la mort est arrivée à cet homme, il lui a dit « Indique-moi quelqu'un ». Sur la même religion, la même croyance que toi, le pur monothéisme, il lui a dit, le seul homme que je connais sur cette religion, c'est un homme qui vit à Amouria. Amouria, c'est une autre ville en Turquie, également. C'est une autre ville en Turquie, dans la région de l'Anadolu, en Turquie. Effectivement, il l'a rejoint et il a trouvé qu'il était sur la même croyance. Quand la mort est arrivée à ce dernier de Amouria, il lui a dit « Indique-moi quelqu'un comme toi ». Il lui a dit « Je ne connais plus personne sur terre sur la même croyance que nous. Il n'y a que des associateurs. Il n'y a que des mouchriquines. Il n'y a que ceux qui croient que Jésus c'est le fils de Allah. Wal'iyadu billah. Ou qui croient en la Trinité. » Il lui a dit « Amma les monothéistes, ça n'existe plus. » Ah, moi, je ne connais personne. lui a dit, par contre, ce que tu vas faire, étant donné que bientôt apparaîtra un prophète dans la péninsule arabique. Bientôt apparaîtra un prophète dans la péninsule arabique. Il lui a dit, je te conseille d'aller là-bas et d'aller dans une ville dans laquelle il y a des palmiers et qui se trouve entre deux terres remplies de pierres noires. C'est quoi cette ville? Cette description est encore valable aujourd'hui. Si vous venez dans cette ville, vous allez trouver qu'elle est comme ça encore aujourd'hui. Comment elle s'appelle?
Médine.
Médine. Ahsantum.
Médine.
Médine. Al-Madina. Effectivement, il lui a dit, elle se trouve dans la péninsule arabique, dans le pays des Arabes, il disait avant, comme ça. Dans le pays des Arabes, la péninsule arabique. Il a dit, c'est une ville qui se trouve entre deux terres remplies de pierres noires et dans laquelle il y a beaucoup de palmiers. Et Médine, effectivement, aujourd'hui, elle se trouve entre deux terres remplies de pierres noires et le Harr al-Sharqiya ou le Harr al-Gharbiya. À l'est et à l'ouest, il y a deux terres remplies de pierres noires. Et dans le nord de Médine, il y a la fameuse montagne de Uhud. Et le seul côté qui est découvert de Médine, c'est le sud. C'est là où le prophète Al-Islam, avec les croyants, avec l'idée justement de Salman, ils ont creusé ces tranchées pour empêcher les kuffars de les attaquer à Médine. Là, c'est le seul endroit par lequel une armée puisse accéder. À de la terre remplie de pierres noires, c'est impossible. La montagne de Uhud, également, c'est très difficile. Lakin, il y avait un seul endroit où c'était une plaine par lequel pouvait accéder une armée. C'est dans lequel ils ont creusé les tranchées dans la fameuse bataille des coalisés. L'Ahzab. Ghazwat al-Ahzab. Donc, et c'est qui leur a donné cette idée? Car les Arabes ne connaissaient pas l'idée des tranchées. C'est Salman al-Farisi qui leur a donné cette idée, radiyallahu anhu. Donc, naam. Et donc Salman, radiyallahu anhu, pendant qu'il était chez le dernier de Amouria, il a eu quelques moutons et quelques vaches. Il a eu quelques moutons et quelques vaches. Et il a décidé de voyager vers la terre des Arabes. Il a cherché une caravane commerciale dans laquelle il y a des Arabes. Et il l'a trouvée. Il leur a dit, vous m'emmenez en terre d'Arabes et je vous donne tout ce que je possède, ces moutons et ces vaches. Ils lui ont dit, d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Effectivement, ils l'ont pris avec eux. Mais quand ils sont arrivés à un endroit, à une vallée qui s'appelle Wadi al-Qura, qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Wadi al-Qura, une vallée à une distance de 400, entre 400 et 500 kilomètres de Médine. Quand ils sont arrivés à cet endroit, cet endroit n'est pas très loin de Khaybar, la grande ville où il y avait les Juifs, qui existe encore aujourd'hui, Khaybar. Donc quand ils sont arrivés à cet endroit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu comme un esclave à un juif. Et ce juif l'a gardé avec lui, il l'a acheté, il l'a gardé avec lui comme esclave pour faire des travaux. Lakin, par la suite, il a eu une visite d'un de ses cousins, qui vit, des juifs de Bani Qurayda, qui vit à Médine. Il a visité ce juif et il lui a demandé de lui vendre Salman al-Farisi. Et il lui a vendu Salman al-Farisi. Donc, il est passé où? Il est passé à Médine. Et dès son arrivée à Médine, il a su que c'était ça la ville que lui a décrit ce chrétien de Amouria. Yani, je dis chrétien, il était sur la religion de Nasraniya. Lakin, c'est quelqu'un qui était sur la religion de Jésus. Le christianisme, ce n'est pas la religion de Jésus. C'est un égarement. Dans lequel il y a la Trinité, il y a des croyances d'égarement. Lakin, il a su que c'était Médine. Il a vu que c'était entre deux terres remplies de pierres noires et qu'il y avait beaucoup de palmiers. Et justement, il a travaillé dans les palmiers avec ce juif de Médine, de Bani Qurayza, une des trois tribus juives de Médine. Banu Qurayza, Banu Qaynuqa ou Banu Nadir. Donc il a travaillé avec lui dans les palmiers. Un jour, pendant qu'il travaillait, il a escaladé le palmier pour prendre les fruits. Et pendant qu'il était en haut de ce palmier, il a entendu un cousin de ce juif qui était son maître. Un de ses cousins qui est venu, il lui a dit: est-ce que tu as vu ce que les Banu Qayla ont fait? Les Banu Qayla, c'est les Arabes de Médine. C'est l'Aus ou l'Khazraj. C'est comme ça qu'on les surnommait, les Banu Qayla. Il lui a dit: est-ce que tu as vu ce que les Banu Qayla ont fait? Il lui a dit: quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il lui a dit: ils se sont tous... Alors qu'ils étaient souvent en guerre, les Banu Qayla, l'Aus contre le Khazraj. Des guerres interminables. Il lui a dit, ils sont devenus tous unis autour d'un homme qui prétend être un prophète. Salman, en haut du palmier, il a entendu ça. Il dit qu'il a été pris par des frissons, il a eu des frissons et une agitation, au point qu'il a failli tomber sur son maître. Lakin, il est descendu du palmier, petit à petit. Il a commencé à poser la question à cet homme. Il lui a dit: c'est qui cet homme? Est-ce que c'est un prophète qui dit qu'il est prophète? Il a commencé à lui poser des questions. Et son maître juif l'a cogné fortement, lui a donné un coup de poing sur le visage, il lui a dit: ne te mêle pas à ça, ça ne te concerne pas. Retourne travailler. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Là, le soir même, il a su où Nabi Islam était. Il était encore à Quba. Nabi Islam, c'était vraiment au début de son arrivée à Médine. Il était encore à Quba. Il n'avait pas encore construit sa mosquée, la mosquée de Médine. Car la première mosquée que Nabi Islam a construite à Médine, c'est Quba. Donc il était encore à Quba. Qu'est-ce que Salman al-Farisi a fait? Bien évidemment, j'ai oublié de vous dire que ce dernier savant sur la même religion que Isa alayhi salam, quand il lui a décrit la ville de Médine, il lui a décrit aussi le prophète alayhi salam. Il lui a dit: tu vas le distinguer facilement. C'est un homme qui ne mange pas d'une aumône et qui mange d'un cadeau. Et il a sur le dos, entre les deux épaules, le signe de la prophétie que tous les prophètes ont. Et ce signe, c'est des grains de beauté qui forment un cercle comme ça. Entre les deux épaules. Et sur chaque grain, il y a un poil. C'est Khatamun Nubuwa. Il a dit: tu vas le reconnaître facilement avec ces signes-là. Salman radiallahu anhu avait quelques dates qu'il avait mis de côté. Il les a pris avec lui. Il s'est rendu auprès du prophète alayhi salam. Il était en compagnie de Sahaba, les compagnons radiallahu anhu. Et il lui a dit: voilà, je vois que tu es un homme de bien. C'est Salman qui dit ça au prophète alayhi salam. Il lui a dit: je vois que tu es un homme de bien et tu as une apparence d'un homme vertueux. Et je vois que tu es dans une pauvreté avec tes compagnons. Alors, j'ai ces dates que j'avais gardé pour une aumône, je vous les offre. Nabi Aslam les a acceptés. Il lui a dit, il l'a remercié, il a pris les dates, il les a données à ses compagnons, il leur a dit mangez. Mais il n'a pas touché. Salman s'est dit en lui-même, c'est le premier signe. Plus tard, il a mis de côté d'autres dates. Dès qu'il a eu une bonne quantité de dates, il est venu voir Nabi Aslam une nouvelle fois. Et cette fois, Nabi Aslam était déjà passé à la mosquée du prophète. Ils ont construit la mosquée du prophète Aslam. Il est venu le voir une nouvelle fois. Il l'a trouvé avec ses compagnons et il a ramené des dates. Il lui a dit: voilà, j'ai des dates que je voulais offrir en cadeau. Je te les offre comme cadeau. Nabi Aslam les a acceptées et il a pris un peu de ses dattes et il a donné le reste à ses compagnons. Salman alayhi salam s'est dit, ça c'est le deuxième signe. Il reste juste le troisième, le sceau de la prophétie. Et un jour, Salman radiallahu anhu est venu voir le Nabi alayhi salam et le Nabi alayhi salam était dans le cimetière avec les compagnons en train d'enterrer un compagnon qui est décédé ce jour-là. Et il portait deux morceaux de tissu, un sur le bas et un sur la partie haute de son corps, ce qu'on appelle izar ou rida, le pan et l'ampon. Et Salman radiallahu anhu, pendant que le Nabi alayhi salam creusait la tombe et participait dans cette tâche, Salman alayhi salam se rapprochait de lui en essayant de voir entre les épaules du prophète alayhi salam. Et le Nabi alayhi salam l'a capté. Il a vu qu'il essayait de voir quelque chose sur son dos, entre ses épaules. Et il s'est arrêté et il a retiré son lampon et lui a montré son dos. Dès qu'il a vu son dos, il a vu Al-Khatam. Et il a embrassé le Nabi alayhi salam et il s'est mis à pleurer. Le Nabi alayhi salam lui a dit, qu'est-ce que t'as ? C'est quoi ton histoire ? Et Salman radiallahu anhu lui a raconté toute son histoire depuis le début, comme dans ce hadith. Tout ce que je vous dis, c'est un seul hadith. Il lui a raconté son histoire et le Nabi alayhi salam a été très touché par cette histoire. Il a souhaité que les compagnons entendent cette histoire. Il a invité Salman al-Farisi à raconter son histoire aux compagnons, radiallahu anhu. Et c'est ce qu'il a fait. Et par la suite, Salman, radiallahu anhu, dit qu'il n'a pas pu participer dans la bataille de Uhud, ni dans la bataille de Badr, car il était encore esclave. Et son maître ne lui autorisait pas. Le Nabi alayhi salam lui a demandé de se racheter de ce juif. Et ce juif a demandé une somme très élevée. Il lui a dit, d'accord, je t'affranchis, je te libère, lakin, contre 300 palmiers que tu plantes pour moi dans mes fermes et qui poussent et qui donnent des fruits. S'il y a un qui ne donne pas de fruits, on ne le compte pas. 300, c'est immense. 300 palmiers aujourd'hui, c'est plus de 300 000 euros. C'est plus de 300 000 euros. Un palmier, c'est 1 000 euros et plus. Et il lui a dit aussi, tu me donnes une certaine quantité d'or. Il lui a demandé 40 ourqiyas. L'ourqiya, une seule, c'est 30 grammes d'or. Donc si on multiplie, ça fait 1,2 kg d'or. C'est immense. Et Salman radiallahu anhu a accepté. Le Nabi alayhi salam a demandé aux compagnons d'aider Salman. Il leur a dit, aidez votre frère. Et chaque compagnon ramenait ce qu'il pouvait ramener en bouture. Les palmiers, quand ils sont tout petits, pour les planter. Et il lui a dit, par contre, tu ne les plantes pas. Attends d'avoir le nombre nécessaire, 300, et après, fais-moi signe. Et je t'accompagnerai pour les planter. Et effectivement, quand il a eu le nombre, il y a un compagnon qui a donné 20 boutures, l'autre a donné 15, 10, chacun selon ce qu'il avait. Et par la suite, quand il a eu le nombre suffisant, Nabi alayhi salam l'a accompagné et les compagnons ont creusé les trous pour les planter. Et c'est Nabi alayhi salam qui a planté tous ces palmiers, les 300, qui les a placés dans le trou. Et ensuite, ils ont remis la terre. Et ils ont tous poussé. Et tous ont donné des fruits. Il restait l'or. Nabi alayhi salam a demandé à Salman de patienter jusqu'à ce que Nabi alayhi salam reçoive quelque chose. Et effectivement, un jour, Nabi alayhi salam a reçu de l'or et c'était comme un œuf. Et il a donné ça, quand il a reçu, il l'a donné à Salman al-Farisi. Il lui a dit, va payer ta dette avec cette quantité d'or. Salman radiallahu anhu lui a dit, au messager d'Allah, c'est 1,2 kg. Il lui a dit, c'est 40 Oqiyah. Ça, ça n'arrive pas à ce point. Il lui a dit, vas-y, et Allah te permettra de payer avec cette quantité. Effectivement, il est parti. Il a dit aux Juifs, voilà, je suis venu avec l'or. Alors, commence à peser. Et il a commencé à peser. Et ça a donné plus de la quantité qui était demandée. Et ainsi, il a été libéré et c'est devenu, et il est redevenu à nouveau un homme libre et il a participé par la suite dans toutes les batailles du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà par rapport à l'histoire de Salman al-Farisi. En résumé, il y a quelques détails que je n'ai pas cités dans cette histoire. Lakin, voilà pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Alors si vous avez une seule question. On a mis beaucoup de temps dans cette histoire de Salman رضي الله عنه. لكن j'espère qu'elle a été profitable. نعم تفضل.
J'avais une question concernant le saut de la prophétie.
Le saut de la prophétie.
Certaines personnes, ils traduisent le fait comme quoi le saut de prophétie, ça serait une excroissance.
Une
excroissance. Une excroissance de peau.
Excroissance, yani des grains. C'est ce qu'on appelle les grains de beauté. Allah alam. Anna, c'est ce que je comprends de ça. Lakin, ce qui est sûr, c'est qu'en arabe, dans les textes, c'est marqué que c'est des grains de beauté qui forment un cercle de la taille d'un œuf. Excroissance, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu comprends par excroissance ?
Un surplus de peau.
Et voilà, c'est la même chose. Halal, c'est un partie de la peau qui sort. Donc c'est la même chose. Tu vois, Anna ? Comment t'appellerais ça ?
Un grain de beauté ?
Oh, c'est la même chose. Yani, c'est de une partie de la peau qui sort. Barakallahu fik akhi, jazakallahu khair. Alors, on va s'arrêter ici. Barakallahu fikoum, jazakallahu khairan, wassalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh.